no need for sound. Saxophone plays so smooth and true. Feel the vibe, it's all for you. Echoes bounce on walls of time. Hear the rhythm, hit the rhyme. Down below in our quiet space, find your voice in this safe place. It's where we meet, bluesy tunes and stories sweet. Feel the soul beneath our feet. Cellar Talk, a secret treat. Dim the lights and settle in. Conversations start to spin. Sip your drink and ease your mind. In the cellar, truth you'll find. With a riff and a saxophone, you're never here all alone. Every tale and every tone in the cellar feels like home.
Bonjour tout le monde, c'est Nofel et Yasmine et on revient pour un nouvel épisode du Cellar Talk. Bonjour Yasmine.
Salut Nofel.
Comment ça va?
Très bien, je suis trop contente d'être là avec toi pour un nouvel épisode.
Bah, tout le plaisir est pour moi, tout le plaisir est pour moi. Il faut clarifier exactement pourquoi on a décidé de partir sur un nouvel épisode, moi et toi. C'est juste par rapport à un épisode que j'ai eu sur la negativity bias. C'est en anglais, et on en a discuté, et je voulais vraiment avoir ton opinion par rapport à ça, vu que tu es un coach. Et en tant que coach, qu'est-ce que je voulais avoir ton opinion par rapport aux outils qu'on puisse utiliser dans notre everyday life. Comme ça, on peut devenir de meilleures personnes qu'on l'est déjà. Et dans l'épisode dans lequel je parle de negativity bias, je parlais beaucoup plus dans un film que je regardais. Il y avait quelqu'un qui doutait, qui avait des doutes sur le fait est-ce qu'ils vont pouvoir passer des obstacles et tout, surtout qu'ils ont un nouvel challenge. Et il y avait une personne qui leur a dit hey, faut s'arrêter, faut réfléchir. Maintenant, tu es en train de regarder à la montagne devant toi. Tu te demandes si tu vas la grimper ou pas. Si tu peux grimper cette montagne ou pas. Mais tu oublies toutes les montagnes que tu as pu grimper auparavant. C'est-à-dire que des fois, moi, la leçon que j'ai prise de cette réponse, de ce caractère, c'est que c'est des fois on se bloque, on s'auto-bloque dans notre tête, dans nos pensées, juste parce que on pense qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne va pas aboutir à quelque chose, et même si et on se compare aux autres, on pense qu'ils sont bien meilleurs que nous, mais on s'arrête. C'est un obstacle. Et des fois, on manque beaucoup d'opportunités, et c'est là où moi, j'ai pensé à toi. Donc, j'ai fait un épisode solo. Et je pense que tu es vraiment la meilleure personne pour parler de ça. Et je voulais vraiment en parler même en français, comme ça on va avoir beaucoup plus de gens. Et j'aimerais juste dire que vraiment on a eu beaucoup de succès avec l'épisode qu'on a fait auparavant. Maintenant on a une meilleure qualité et on peut vraiment le faire. Comme ça les gens puissent vraiment écouter tout et leur donner les outils pour vaincre des moments comme ça. Allez.
Alors, quand je t'écoute, ça me fait penser, quand tu dis « je vois la montagne » et je ne pense pas à toutes les montagnes que j'ai déjà réussi à gravir, ça me fait penser à la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est la capacité de se dire « je vais m'en sortir quelle que soit la situation. Je vais m'adapter, je vais réussir à trouver le nécessaire, les ressources pour m'en sortir ». C'est ça la confiance en soi et c'est aléatoire, c'est pas toujours, on n'a pas toujours une super confiance, on n'a pas toujours une confiance très basse, ça dépend des moments, sauf quand on est en dépression par exemple, où là souvent la confiance en soi peut être peut être très basse. Donc, ça me fait penser à ça, et la confiance en soi, c'est important pour justement gravir les montagnes, puisque si tu crois que tu n'es pas capable, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. J'ai appris justement grâce au coaching que finalement toute notre vie dépend de nos croyances. Et quand tu crois en quelque chose, ça te fait ressentir des émotions. Ces émotions te poussent vers un certain comportement. Et ce comportement va créer ta réalité. Donc, ça veut dire que si tu crois que les gens, c'est des arnaqueurs, bah, tu vas ressentir une peur, tu vas ressentir une méfiance et tu vas te comporter d'une certaine façon qui va faire que tu vas attirer des arnaqueurs, que les gens, même s'ils ne sont pas spécialement arnaqueurs, ils vont l'être avec toi.
C'est vrai, c'est vrai.
Et parce que le cerveau, il n'aime pas avoir tort. Le cerveau, il a besoin de vivre des expériences qui prouvent ce qu'il croit.
C'est vrai, c'est
Donc,
vrai.
d'où l'importance de ce qu'on croit et aussi de comment on parle, parce que quand on parle, par exemple, et qu'on dit bah, je vais jamais y arriver, ton cerveau, il reçoit cette information, c'est ancré, c'est important de tout ce que tu sors de ta bouche, bah, que tu réfléchisses avant de le sortir et que tu le sors consciemment, que ce ne soit pas des choses qui vont te bloquer. Et tout ça vient de tes croyances. Et les croyances, bah, ça vient pas mal de ton éducation, de aussi des fois de la société, parce qu'il y a des croyances aussi un peu sociétales en fonction de où tu as
Culturel,
grandi.
ouais.
Par exemple, il y a des pays où les gens ne sont pas très riches, mais ils ont un peu cette croyance de bah, tout va bien,
Ouais.
merci mon Dieu.
Alhamdoulillah.
Tu vois, et ils vont avoir un langage qui est plutôt positif, alors que quand tu vois la misère dans laquelle ils vont vivre, tu te dis, ah ouais, je sais pas comment ils font, mais en fait, c'est parce qu'ils croient que tout va bien et que bah, Dieu, il va les aider, que peut-être ils auront une vie meilleure plus tard. Tout ça, c'est des croyances qui leur permettent bah, de se sentir bien à l'instant T. Donc, d'où l'importance de l'éducation que tu donnes aussi à tes enfants, des phrases que tu répètes souvent à toi-même.
Donc ça commence à la maison. Ça commence directement à la maison. Comment les
Pour
parents?
moi, c'est la base.
Parce que
Ouais,
les
pour moi, c'est la
parents,
base, la famille.
ouais, exactement. Et surtout les parents et les frères et sœurs qu'on a. Moi, je suis le plus petit, le Benjamin d'une grande famille. Et puis, moi, pour moi, mes parents et mes frères et sœurs, ils étaient vraiment mes idoles. Tout ce qu'ils faisaient, c'était parfait. Tout ce qu'ils faisaient, c'était parfait. Donc, je copiais et collais tout ce qu'ils faisaient. Et comment ils disaient et comment ils parlaient, comment ils disaient comment ils prenaient leur petit déjeuner, comment ils prenaient leur déjeuner, comment ils préparent à manger, comment ils marchent, comment ils parlent, comment ils réfléchissent. Oui, j'étais juste une éponge qui absorbait tout. Généralement, si tu grandis dans une maison où tu vois que ton idole, il se fait beaucoup plus petit, ben généralement, tu vas toujours être le petit dans une société. Mais si tu as quelqu'un qui a une idole qui est vraiment out there, qui est vraiment
Inspirant.
dehors. Exactement. Donc, on va juste prendre les traits que nos parents ou bien nos frères et sœurs ont. Et ça, c'est très, très important. Et même à l'école, je pense que c'est très important. Parce que vraiment, l'éducation, je pense que l'école et les parents, ils travaillent ensemble. Parce que je pense que l'école, c'est juste une plateforme pour les enfants et les jeunes. C'est une introduction à la vie qu'ils vont avoir plus tard. Et c'est là, moi, je pense que des fois, quand tu as, surtout on a grandi au Maroc, et dans quelques écoles publiques, il y a des professeurs ou bien des teachers qui frappent un petit peu qui frappent les enfants et tout ça. Et moi, je pense que vraiment ça n'incarne pas du tout la société dans laquelle on vit en général. Parce que vraiment, si tu fais une gaffe au boulot, tu vas pas vraiment avoir mal, personne ne va venir et te frapper. Hein, si tu fais une gaffe dans une société avec ton voisin, il ne va pas venir te frapper. S'il vient te frapper, donc il n'y a plus de loi. Il n'y a plus
Ouais,
de
c'est pas le
règles.
bon exemple, en fait.
C'est pas du tout le bon exemple. Donc, pour moi, le fait que on réagisse, et, on donne des conséquences qui sont beaucoup plus qui font mal et ça crée un trauma, ça peut conduire à des behaviors, à des gestes ou bien
Comportement.
comportements. Si tu vois une montagne, tu peux te dire que tu peux vraiment pas du tout getting through that mountain. Donc, il faut vraiment, il faut vra ça commence à la maison. Et avec l'aide de l'école, je pense que ça peut donner vraiment beaucoup plus de résultats.
Bah justement, ici en France, parce que j'habite du coup ici depuis maintenant une quinzaine d'années, la fessée, par exemple, est interdite. L'humiliation est interdite. Donc, t'es pas censé humilier ton enfant. Et l'humilier, bah, ça veut dire bah, lui dire, mais t'es nul. Ça veut dire lui crier dessus. Ça veut dire le taper, etc. Et en fait, là, je sens que ma génération, donc notre génération à nous, ils sont un peu paumés dans l'éducation parce que ils veulent faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'ils ont reçu, en étant plus à l'écoute de leurs enfants, à l'écoute de leurs émotions, alors que nous, notre génération, bah, nos parents, la majorité, c'était plutôt bah, quand t'es content, faut pas trop faire de bruit. Quand t'es pas content, faut pas trop faire de bruit non plus.
Et quand tu n'as aucun sentiment, il faut vraiment pas du tout faire de bruit.
Et du coup, l'objectif, c'était un peu, bah, tu écoutes tes parents, tu obéis.
Et tu fais ce qu'ils disent, ouais, c'est vrai.
Voilà, surtout tu laisses les grands parler, parce que les grands, c'est waouh.
Et tu manges pas beaucoup de petits snacks là quand on parle chez les gens, hein. Quand on est invité quelque part, tu vas pas manger
Ah
tout le plat. Parce que il y a mon père qui me regardait comme, je dis c'est bon, c'est très bon, ils l'ont mis là-bas pour nous. T'es fou, moi c'est pour
en
moi
fait,
ça.
c'était une éducation. Bah, je pense qu'ils ont fait mieux que leurs parents. Chaque parent essaie de faire un peu mieux que ses propres
Ah
parents.
ouais, oui,
Mais il y
bien.
avait ce truc où les émotions n'avaient pas trop leur place. Il n'y avait pas d'écoute vraiment des émotions. C'était tu obéis, il faut être gentil. Généralement, c'est valorisé.
Mais je pense que ça,
Sauf
c'est
que
bien,
bah,
oui.
le problème, c'est que quand tu es trop gentil, à un moment, quand tu grandis, tu ne sais plus comment mettre des limites. Et quand tu es dans la vraie vie, bah, il faut mettre des limites, sinon tu te fais bouffer, en fait.
Je
Donc,
pense qu'il y a aussi un bon côté pour ça. Parce que ça crée en nous que dans la vie et dans notre quotidien, il y a des rules, il y a des trucs qu'on doit suivre, il y a des lois et tout, et on doit vraiment suivre. On vit dans une société, il faut qu'on se conduise comme ça. Mais vraiment, quand ça passe vraiment d'une démocratie à une dictature, c'est là où ça commence à vraiment à flipper un petit peu. C'est là où ça commence à faire peur. Parce
exactement,
que
c'est
ça crée un
comment
traumatisme.
tu apprends à ton enfant à s'adapter dans ce monde avec les règles de ce monde.
Comment on peut le
Et
faire? Comment on peut faire ça?
bah, pour moi, parce que je lis beaucoup de livres là-dessus, en plus de ma formation coaching, déjà, il y a l'exemple, parce que ton enfant, finalement, tout ce que tu lui dis, il s'en fout. Lui, ce qui l'importe, c'est ce que tu es. Donc, t'as beau lui dire sois gentil, si toi t'es pas gentil, il sera pas gentil. Si tu lui dis il faut respecter ça, que toi tu le respectes pas, il le respectera pas. Donc, c'est hyper dur. C'est là où c'est super challengeant. C'est que toi tu as dans ta petite tête tout ce que tu veux inculquer à ton enfant, mais lui il s'en fout. Hein. Lui il regarde comment tu te comportes,
C'est
qu'est-ce
vrai.
que tu as au fond de toi dans tes tripes,
Ouais.
et il s'inspire de ça. Donc, pour moi, la base c'est déjà travailler sur toi. Pour incarner tes valeurs. Et bah, parmi, par exemple, moi, mes valeurs, chose que on m'a pas beaucoup appris quand j'étais petite, c'est bah, respecter les autres. Ça, on me l'a appris. Mais aussi se respecter soi.
Ouais. C'est très,
Ça
très
change
important.
un
Ça
peu.
commence par ça. Et puis, comment on peut respecter les autres sans s'auto-respecter?
Bah, le problème, c'est que quand on est enfant, souvent, on pousse les enfants. Fais ci, fais ça, sois gentil. Et on ne leur apprend pas que ben, c'est important aussi de s'écouter. Par exemple, un enfant, moi, mon fils, quand il arrive quelque part, je lui ai appris que c'est important de dire bonjour, de faire un coucou avec la main, mais il n'est pas obligé d'aller embrasser 10 personnes qu'il ne connaît pas.
C'est vrai.
Tu vois, c'est bête, mais beaucoup, en tout cas ici en France, ça peut choquer parce qu'ici, ben, il faut faire le petit bisou à tous les adultes. Et moi, j'arrive avec mes grands sabots et je dis, bah, il va dire, bah, si tu veux, tu peux dire oh, bonjour
De
de
très
loin, tu vois.
loin, c'est la même chose, ça va servir au même truc.
Donc, c'est important de lui apprendre
Ouais,
la politesse parce
ouais,
que
ouais.
on est en communauté et tu vas pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Mais par contre, c'est important aussi qu'il se fasse respecter et que si quelqu'un arrive qu'il connaît pas et qu'il veut l'embrasser ou lui faire un câlin que lui, il a pas envie, il a le droit de dire non. Et ça pique parce que normalement, quand tu es un enfant, en tout cas à notre époque, c'était tu fais ce que les adultes te demandent.
Exactement, c'est différent. Ah ouais, c'est une approche un petit peu
C'est très
différente de,
différent.
ouais.
Ouais, c'est très différent. Et en tout cas, dans l'éducation positive, en fait, ils t'apprennent à devenir un parent qui guide un peu son enfant, mais qui lui permet d'être lui-même. Et c'est
L'éducation
très dur à
positive.
faire.
Wow.
Dans le sens où bah, l'enfant, il sait plein de choses. Alors que nous, à l'ancienne, c'était plutôt non, l'enfant, il sait rien, c'est toi qui sais tout.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Mais
On
en
a
fait,
grandi
moi,
comme
mon
ça,
fils,
hein.
il sait très bien quand il a envie de dormir, il sait très bien quand il a soif, il sait très bien quand il a faim, il sait quand il n'a plus faim. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à respecter en tant que parent. Parce que bah, quand il est bébé, que tu lui donnes à manger, tu le forces des fois, tu vois. Tu es là, vas-y, t'as pas fini ton assiette. Mais lui, il sait quand il a plus faim. Donc à un moment, il faut aussi
Ouais,
respecter
ouais,
que ça
ouais.
y est, là, il a plus faim, on arrête, stop, tu vois.
Maintenant, ma question serait comme, si quelqu'un a commencé dans à éduquer leurs enfants d'une manière à l'ancienne, je vais dire, et ils aimeraient bien changer ça. Comment ils puissent, maintenant, l'enfant, il a déjà cette éducation, est-ce que c'est trop tard pour qu'on puisse commencer l'éducation positive? Ou bien c'est un peu trop tard et on ne peut pas le faire et il faut juste qu'on persiste avec ce qu'on a.
Je pense qu'il n'est jamais trop tard. C'est juste peut-être un peu plus compliqué parce que tu pars sur un système, par exemple, l'éducation classique à l'ancienne, c'est avec les punitions. Donc, ou avec le chantage. Donc, tu apprends à ton enfant que bah, si il fait ça, ou tu le tapes, ou tu lui enlèves son jouet préféré. Donc, ça, c'est plutôt. Un moyen d'éducation que la plupart vont faire. Si un jour tu veux switcher, je pense que tu peux, parce que par exemple, moi, dans mon éducation positive, ça va être plutôt, il va y avoir des conséquences. Parce qu'il faut toujours réfléchir, c'est quoi ce que je veux apprendre à mon enfant? L'enfant, il va toujours chercher le sens dans l'histoire, tu vois. Et je sais pas, moi, si je sors trop tard de chez moi pour aller prendre le train, il va pas m'attendre. Il va partir.
Ouais, c'est vrai.
Donc, la conséquence, c'est que je rate le train. Et c'est logique. Donc, mon enfant, je ne sais pas s'il veut plus jouer ce soir plutôt que d'aller au lit. Je vais dire, OK, par contre, tu n'auras pas l'histoire parce qu'on n'aura pas le temps de lire l'histoire. Donc, il y a une conséquence, mais ce n'est pas une punition. Mais du coup, comme moi, je n'ai pas été spécialement éduquée de cette manière, ou que j'ai pas beaucoup d'exemples, voire pas du tout d'exemples
Moi non plus.
autour de moi. Ben en fait, c'est hyper dur parce qu'il faut tout recréer.
Ouais, c'est vrai. Donc ce
Et
n'est jamais trop tard
je
pour
vois beaucoup de
commencer à
gens
bien
qui
faire, quoi.
essayent d'être dans cette optique, et moi aussi j'essaye, hein, parce que j'arrive pas à être tout le temps comme ça, ce qui est normal. Mais tu vois, par exemple, si je lui crie dessus, parce que je me suis énervée, que j'ai pas réussi à lui exprimer correctement mon énervement, bah après je vais m'excuser par exemple. Parce que je vais lui dire, écoute, maman, elle s'est énervée, elle a crié trop fort, ça c'est pas OK. À la maison, on crie pas comme ça. J'aurais dû t'expliquer ça de cette manière. Maman, elle est pas OK avec ça, donc on arrête. Tu vois, et c'est pas évident à faire, mais je trouve que c'est important de regarder sa propre éducation et de se dire qu'est-ce qui m'a été utile. Et qu'est-ce qui m'a fait chier dans ma vie d'adulte?
Il faut prendre le bien et il faut changer les areas, les petits trucs là
C'est
qu'on n'a
ça.
vraiment pas du tout apprécié en grandissant. Il y a toujours quelque chose en nous quand on a grand en grandissant, on s'est toujours dit, je vais jamais faire ça à mes enfants. Il faut se rappeler de ces
Et des
moments-là.
fois, c'est dur parce que tu te dis ça, mais le jour où tu as l'enfant,
Ah,
Ça
tu peux
vient
dire c'est normal,
naturellement, ça
yeah,
te choque, tu
exactement, parce que tu es wired like comme ça, tu vois. Tu as des ouais. Les câbles là
vois.
que
C'est
tu as
vraiment,
dans
t'as
la tête,
des...
c'est comme
Ouais,
ça,
t'es
hein, c'est
vraiment câblé. T'es
ouais.
câblé d'une certaine manière.
Yeah.
Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des biais dont tu parlais. En fait, c'est vraiment un schéma de pensée qu'on a, des choses qui sont enregistrées comme des disquettes dans notre tête,
Ouais.
et ça prend du temps à les changer. Mais c'est toujours possible de les changer. Il faut juste déjà en prendre conscience et se dire, OK, moi par exemple, j'ai été éduquée d'une façon très... Mes parents, ils étaient très peureux. Donc,
Ouais.
ils faisaient très attention à tout. Ils faisaient attention à ce que je tombe pas, à ce que je me fasse pas mal, à ce que je ne me salisse pas. Donc, quand tu es trop dans... Je surprotège mon enfant, bah... Ça en fait à un moment un enfant peureux parce que tu te dis, ah ouais, en fait, l'environnement, c'est hostile. C'est wow, il faut que
Ouais,
je fasse gaffe.
c'est vrai, yeah, c'est vrai.
Donc, moi, le challenge que j'ai eu, c'est de laisser mon fils découvrir son environnement et pas me dire, oula, il y a ça, il va se taper la tête avec, il va mourir. Ah, ça, il va se blesser, il va se couper la main.
Voilà.
Ça,
Mais
tu vois, et pas voir le danger partout.
yeah. Mais généralement, c'est vrai, parce que des fois, si on réfléchit pas à ça, on va juste sentir le danger venir. On va le sentir, ça va nous frapper. Par exemple, si je me tape la tête avec quelque chose, God forbid, je vais savoir que vraiment ça, si je me frappe la tête avec ça va vraiment faire mal.
Exactement. Et
Mais
c'est ça
généralement,
qui est dur de laisser ton enfant faire ses expériences.
c'est dur pour les parents, hein. Parce
C'est hyper dur.
qu'on a envie de les protéger un petit peu
Exactement.
trop.
Mais du coup, faut rechanger le
Comment
la
réagissent?
jauge. Tu vois, la jauge, c'est bah il a 2 ans. S'il tombe de 10 cm, il va se rattraper.
Ouais, exactement, il va pas
Il va se faire un peu
mourir.
mal, mais il va pas mourir, tu
Yeah, mais
vois.
c'est généralement notre cerveau, il réfléchit beaucoup plus directement à la moitié vide du verre. C'est là le concept de la moitié vide et la moitié remplie du verre. C'est généralement, c'est le cerveau. Je peux même pas l'expliquer. C'est comme ça que ça marche. Ça. On tend généralement à voir la partie la plus négative de chaque situation. Qu'on a, nouvelle ou bien quelque chose qu'on a déjà fait auparavant, on voit juste les conséquences, les mauvaises conséquences qu'on peut avoir si on le fait. Comment on peut changer nos cerveaux comme ça on peut voir beaucoup plus ou bien prendre son temps et réfléchir au lieu de juste arriver à une conclusion comme quoi ça ne peut que avoir des conséquences qui sont négatives.
Alors, d'abord, on accepte qu'on a des pensées comme ça. C'est important d'accepter que quand il se passe ça, j'ai cette pensée qui arrive. Moi, avec mon fils, quand je le voyais aller se faire quelque chose, j'avais d'abord la pensée, oh purée, il va s'éclater la tête. D'abord. Ensuite,
Voilà.
tu vois la pensée arriver et tu te dis, ouais, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux lui permettre de découvrir, d'avoir confiance en lui. De ne pas le surprotéger. Donc, comment je vais me comporter? Bah, je vais fermer ma bouche et je vais attendre.
Ouais.
Donc, en fait, tu te forces à avoir un certain comportement qui, au final, ben, mon fils, la première fois, la deuxième fois, la 10e fois, la 20e fois, il tombait. Je le regardais parce que les enfants, au début, ils regardent leurs parents pour voir comment ils réagissent, pour savoir eux-mêmes comment réagir. Donc, quand il se retournait pour me regarder, ben, je lui disais... Oh, super, tu t'es bien rattrapé. Mais vraiment parce que je le pensais. Je me disais,
C'est
waouh,
pas juste
il
pour
a bien mis ses
l'encourager.
mains. Il s'est pas éclaté, c'est trop bien.
Il y a la tête, elle est toujours là, et c'est pas éclaté.
Mais du coup, ça fait un enfant maintenant quand il... Et c'est normal en fait quand tu apprends à marcher, tu es obligé de tomber pour te relever.
Ouais.
Et c'est ça qu'on nous a pas, je pense, assez appris. Parce que maintenant, en tant qu'adulte, je ne sais pas, je pense que peut-être aux États-Unis, c'est différent. Mais en France, la culture de l'échec, c'est quelque chose de hyper compliqué.
Oh,
Faut pas
ici
avoir
aussi,
d'échec.
oh, il faut toujours avoir le succès. Dans n'importe,
C'est ça.
ils sont très ambitieux. Il y a l'ambition, c'est inné dans leur éducation. C'est le American Dream, you know, have a job. Avoir un boulot, un très bon boulot, avoir une maison, avoir deux voitures, ça, il faut avoir ça. Ça, c'est minimum. Mais par la suite, c'est. Donc, c'est inné en eux, c'est dans leur éducation. Mais vraiment, des fois, tu vois des enfants et tu te dis, ah, ils vont payer ma pension. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir payer ma pension. Parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment des fois, ça peut aussi, le fait d'éduquer les enfants avec en leur parlant et tout, ça fait aussi d'eux des gens qui n'ont pas peur du tout de n'importe quelle situation. Et quand ça prend cette tournure-là, donc ça, des fois, ils réagissent d'une manière où ils oublient où ils sont et qu'ils
Ils peuvent
sont
se
dans
mettre en danger, du coup.
premièrement, et mettre les autres en danger.
En danger.
Et je vais te donner juste un exemple. Par exemple, moi, je conduis pour 45 minutes pour arriver au boulot. Et des fois, pas des fois, mais tous les jours, je conduis dans 695. C'est un highway, c'est un périphérique qu'on prend que je prends pour aller au boulot. C'est vraiment, les voitures sont tellement rapides et ils conduisent d'une manière vraiment pas du tout safe que vraiment ça fait peur aux gens et tu ne te sens pas du tout safe. Hein? Comment je peux dire safe?
En sécurité.
En sécurité, ouais, voilà. Donc je ne me sens pas du tout en sécurité et quand tu vois qui conduit, c'est généralement des enfants. C'est 18, 19, 20 ans. Ils n'ont pas peur. Ils font ce qu'ils veulent. Donc maintenant, comment vraiment arriver à donner ce qui est très bien à l'enfant, mais tout en leur expliquant qu'ils font partie d'une société, qu'il faut être en sécurité, mais en premier, il faut mettre tous les gens autour de nous en sécurité, et puis comment être un bon citoyen aussi. Tout en, bien sûr, avoir des ambitions et en grandissant très très bien. Et bien sûr, regarder à la moitié remplie du verre. Et puis, ça, pour moi, ça, c'est être juste un bon citoyen. Mais comment le faire? Comment on peut vraiment shift ou bien tourner notre cerveau vers, ou bien tourner le cerveau de l'enfant pour qu'il puisse réfléchir d'une manière où il va s'auto-inclure, mais inclure les autres aussi?
Bah, je pense que c'est important, moi en tout cas de ce que je l'ai compris, de réussir toi-même à être empathique avec ton enfant et aussi à être empathique avec les gens autour. Ça lui permet lui de voir que c'est important l'empathie. C'est-à-dire forcément si tes parents ils ont été accueillants avec les invités à la maison. Il y a de fortes chances que toi, quand tu grandis, tu sois accueillant parce que
C'est vrai.
t'as vu que ça faisait partie de quelque chose de sympa.
C'est vrai.
Ben, si tes parents, quand ils passent à côté de quelqu'un qui fait la manche et qu'en fait ils disent, oh là là, ils nous font chier ceux-là, là, ils ont qu'à aller bosser, tu
Tu
vois.
vas avoir la
Ben, en
même
fait,
réaction.
peut-être que toi aussi, tu vas commencer à te dire, ouais, ah, les gens là. Et en fait, je pense que c'est encore une fois dans l'exemple. Et il y a aussi la... Parce que si tu grandis en France, j'avais 18 ans, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient, la majorité des personnes que j'ai rencontrées qui avaient 18 ans, leur objectif final le soir, c'était d'aller boire jusqu'à être bourré. Et on s'en fout, whatever. Après, qu'on aille en soirée ou pas, ils s'en fichent. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller danser. Sauf que comme ils étaient tous bourrés, personne ne voulait de nous dans nulle part, tu vois. Et c'était un truc sociétal, tu vois. En tout cas, là où j'étais, tout le monde était comme ça. Moi, ça m'intéressait pas de boire, donc je buvais pas. J'étais un peu, ah oui, ah bah, du coup, c'est toi qui conduis, vu que tu bois pas. Ok, très bien, je conduis. Mais c'est hyper dur quand moi je suis arrivée du Maroc, c'était plus facile pour moi de pas rentrer dans le moule. Mais quand tu as grandi là-dedans, que tu as 14 ans, que tu vois que tout le monde boit parce que c'est le truc cool, etc., c'est hyper dur, je pense, de pas rentrer dans le groupe Et ça, peut-être que l'éducation joue un peu, mais l'environnement aussi joue beaucoup.
C'est vrai.
En tout cas, moi, quand j'étais, par exemple, au lycée, mon père, il communiquait beaucoup avec moi. Et ça m'a permis, en tout cas, de lui raconter certaines choses que je voyais au lycée, qui me surprenaient, tout, avec les garçons avec les filles, les gens qui fument, etc. Et ce qu'il a
Les gens
fait,
qui
qui m'a
fument.
permis peut-être moi de pas rentrer dedans,
Les gens qui fument comme moi. Fumer.
ce qui m'a, parce que du coup moi j'ai jamais fumé, et je
Ouais.
pense c'est aussi parce que je discutais beaucoup avec mon père, c'est que je sentais que j'étais quand même assez libre, puisque je pouvais discuter avec lui, mais il utilisait quand même des expériences d'autres personnes pour me dégoûter de certaines choses.
Ce qui est
Tu vois, par
bien.
exemple, la cigarette, clairement, ma mère a galéré pour arrêter de fumer. Pendant des années, j'ai été témoin de ça. Et lui, il a bien utilisé ça pour que je m'en rappelle. Tu vois, t'as vu? Bah, tu vois, ta mère, elle a vraiment galéré. Elle a vraiment galéré. Ça, c'est une croyance qui finalement a été ressource pour moi. Tu vois? Puisque ça m'a jamais donné envie de fumer.
Tu sais très très bien qu'il y a une personne qui est très proche de toi, qui ne voulait, qui a fumé, qui ne voulait plus fumer, mais c'était vraiment dur de l'arrêter.
C'est ça. Et je pense que les parents, ce qu'ils peuvent faire, déjà, c'est garder le lien et le dialogue avec leurs enfants. Parce que plus tu as un lien de confiance avec ton parent, et plus tu vas lui faire confiance, tu vas plus peut-être l'écouter. Tu vas pas avoir envie d'aller expérimenter des choses qui risquent d'être mauvaises pour toi, puisque tu crois en ton parent. Donc, quand le parent, il te dit, ouais, ça, c'est vraiment pas bon pour toi, tu vas te dire, peut-être, il a raison.
Et les parents, ils ont
Et ça,
toujours
c'est
raison.
hyper dur. C'est hyper dur à faire, tu vois. Mais c'est important de communiquer, je pense, de communiquer avec son enfant, de lui poser des questions pour voir lui ce qu'il pense. Même tout petit, hein, il pense tellement de choses. Savoir ce que l'enfant y pense, et l'aider dans sa réflexion.
Ouais, ça c'est
Parce
très
que
important
l'enfant,
aussi, ouais.
il est intelligent, mais il n'a pas certaines connaissances. Donc, toi, tu peux lui apporter la connaissance, mais lui, il a son raisonnement, il a son intelligence. Donc, c'est hyper important de dialoguer. Et ça, je ne sais pas si maintenant les gens le font plus. J'ai l'impression qu'ils le font plus. Mais n'empêche qu'on est quand même dans une éducation un peu transitoire, en tout cas ici en France, parce que tu sens qu'on les jeunes ne savent plus trop, est-ce qu'on va vers quelque chose de hyper ouvert ou du coup ça peut devenir laxiste. Et en fait, c'est pas possible parce que l'enfant, il lui faut un cadre quand même, il faut que tu le guides. Et en même temps, il faut pas aller dans un truc de dictature où l'enfant peut plus respirer, il peut plus réfléchir. Donc, c'est le juste milieu et c'est hyper dur à trouver. Donc, moi, ce que je conseille, c'est juste remettre en question certaines choses. Et
Toujours.
je pense qu'un bon parent, c'est juste un parent qui sait se remettre en question.
Et qui peut être désolé par la suite. Parce que moi, j'ai grandi dans une
Exactement.
maison où les parents, ils sont jamais désolés de quoi que ce soit. Et ça vraiment, vraiment, ça m'a manqué. Je me suis toujours dit que si je fais quelque chose, si je vais avoir un jour un enfant, quand j'aurai mes enfants, je vais toujours être vraiment fair. Si j'ai fait quelque chose de mal, je dois le reconnaître. Parce que j'aimerais bien qu'ils reconnaissent leur tort. Ça commence avec moi encore. Donc vraiment, les parents, ils doivent savoir que leurs enfants les regardent d'un œil où ils sont vraiment les meilleurs, les pionniers de n'importe quoi.
D'ailleurs, ils disent un truc super intéressant, c'est que quand tu es par exemple injuste avec ton enfant, quand tu es humiliant, quand tu lui cries dessus, quand tu te comportes mal avec lui, sache que ton enfant, il va pas arrêter de t'aimer toi. Parce que tu es son parent, il peut
Ouais,
pas.
c'est.
T'es,
Y a
sans
pas de
lui, sans
condition.
toi, il vit pas. Donc il va arrêter de s'aimer lui-même. Et ça, c'est puissant. Quand tu te dis ça, tu te dis, ah
C'est
ouais,
intéressant,
parce
hein.
que tu vas continuer à aimer ton parent, même les parents les plus vraiment maltraitants, bah souvent leurs enfants, ils les
Ils
aiment
les
parce
aiment, ouais.
que
Sans
Parce que bah, quand
condition,
t'es
parce qu'il n'y a pas de
enfant, t'as
condition
pas
en
le
fait.
choix.
Ouais, c'est vraiment, c'est exact. Mais il n'y a pas de condition, il y a un lien par le sang. Donc c'est les parents, c'est l'enfant. On peut jamais détester nos parents. On peut vraiment être en colère contre nos parents. On
Exactement.
peut arrêter de leur parler des fois, spécialement
Et
quand on grandit. Mais.
ça, c'est important, je trouve, d'inculquer à son enfant qu'il y a une différence entre être en colère envers lui et l'aimer.
Parce qu'on
Tu
va
vois,
toujours
même dans
l'aimer.
le couple, souvent, les gens, ils mélangent les deux. Dans le couple, des fois, les gens, ils se disent, ah, si on se met en colère envers l'autre, c'est qu'on l'aime plus. Non, ça n'a rien à voir. On aime son enfant et ça, c'est censé être inconditionnel. On aime son enfant pour toujours, même s'il fait la pire des conneries. C'est ça l'amour d'un parent.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Après, tu peux être en colère envers ton enfant. Si ton enfant il tue quelqu'un ou qu'il va faire une grosse connerie, tu as le droit d'être en colère avec lui, de ne pas être d'accord avec lui. Mais pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui est inconditionnel. Et c'est ça qui n'est pas évident aussi, parce que l'amour des parents, il est souvent conditionnel quand même.
Oh, bien sûr, bien sûr. Maintenant, pour quelqu'un qui a grandi dans une atmosphère ou bien dans un environnement qui est vraiment hostile, dictature et tout, et qui a développé le sens où il voit toujours la moitié vide du verre, ils ont toujours cette négativité à réfléchir quand ils réfléchissent ou bien. Maintenant, on est grand, on est âgé, on a 18, 19, 20 ans, on a même 25 ans, on a commencé à travailler. Comment on peut le développer en ce moment-là? Maintenant, tu n'as pas eu, on a dit que ça commence à la maison, tu ne l'as pas eu à la maison, tu as grandi, mais tu veux vraiment être bien meilleur, tu veux être différent, tu veux voir les choses d'une manière différente. Est-ce qu'il y a des outils qu'on puisse utiliser, comme ça on peut vraiment manager ou bien gérer ce sentiment, et comment on peut le faire?
Alors, tu as commencé déjà à répondre à la question parce qu'il faut commencer par le vouloir.
Ouais, c'est vrai.
Parce que si toi tu veux pour ta femme ou pour ton mec ou pour ton copain ou pour ton fils, c'est mort. Il faut que la personne elle veuille elle-même avoir ce changement de mindset. C'est vraiment un changement de mindset parce que il faut d'abord comprendre quelles sont tes croyances limitantes. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que c'est ta vision de la vie? Et ensuite, tu te dis, OK, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ça. Par exemple, moi, avant, j'étais vraiment une grosse peureuse. Quand je sortais me balader dans la forêt avec mon mari, j'avais l'impression que quelqu'un allait venir nous agresser parce que j'ai grandi avec des parents. Dès qu'il y avait personne dans la rue, ça y est, on va se faire agresser, quoi. Voilà. Donc, j'avais cette peur bleue et cette croyance que dès qu'il y a personne, c'est dangereux. Alors, comment j'ai changé ça? Mais tu changes ça comme plein d'autres croyances. C'est d'abord d'en prendre conscience, d'accepter, OK, je crois vraiment ça au fond de moi. Donc, forcément, dès que je suis dehors, j'entends des bruits. Enfin, ton cerveau, il va chercher plein de choses pour te dire, t'as vu, c'est dangereux. Tu croises des gens chelous.
Oui, bien sûr.
Bizarrement.
Surtout quand on entend qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cet endroit-là. Par exemple, si on part dans un quartier, si je te dis maintenant on va partir dans Drb Sultan, tu vas marcher toute seule. Tu as toujours un bias. Ok, j'ai entendu parler de ce passe. Il y a eu beaucoup d'histoires et tout. Maintenant, parce qu'on a écouté, maintenant j'ai trop peur. Je vais jamais partir là-bas.
Exactement. C'est vrai, ouais. Bah, du coup, c'est important déjà de le savoir, de comprendre quelle est ta croyance. Et ensuite, il faut savoir que le cerveau, il a besoin de la répétition pour que les choses s'ancrent. C'est pour ça que, par exemple, dans l'éducation, quand on te répète toujours la même chose, bah, c'est là où ça s'ancre. Quand on te répète tout le temps que t'es nul, tout le temps que les gens, c'est des connards, tout le temps que si, que ça, bah, en fait, ça s'ancre bien. Donc, toi-même, avec toi-même, il faut que tu arrives à te répéter. Et ensuite, donc, quand tu te répètes ce message dans ta tête, d'ailleurs, je sais pas si tu connais les affirmations positives. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut aider. Tu peux créer ta propre affirmation positive, te le répéter plusieurs fois par jour, te le répéter devant un miroir. Et ensuite,
L'écrire aussi, ça
Comment?
aide. Écrire aussi,
Écrire?
les affirmations.
Écrire une centaine de fois ton
Ouais.
affirmation positive, ça
Oui.
permet de reset l'ancienne. Et ensuite, ce qui va vraiment écraser les anciennes croyances limitantes et créer un nouveau mindset, c'est l'expérience. Par exemple, si tu te forces en ayant ancré cette affirmation positive à aller te balader en forêt et que tu as fait ta première balade, il s'est rien passé de mal. Ta deuxième, il s'est rien passé de mal. Au bout de la dixième, bah c'est bon. Ton cerveau, il se dit, bon, bah c'est bon, il n'y a pas de danger, tout va bien. Et c'est pareil pour la montagne. Si tu te dis, bah, OK, déjà la petite dune, là, je vais la gravir, je suis capable, et que tu arrives à gravir cette petite dune, c'est pour ça que dans le coaching, on dit, c'est toujours step by step. Parce que c'est en faisant le premier step que tu vas gagner en confiance. Et hop, allez, on va au deuxième step. Ah, bah, j'ai un peu plus de confiance puisque j'ai réussi le premier.
Déjà, ouais. Oui.
Et un autre truc important que j'ai appris qui est pas évident à appliquer, mais quand tu arrives à l'appliquer, c'est super chouette. C'est que, OK, tu te dis que je veux gravir la montagne là-bas. Tu mets tout ce que tu peux pour y arriver. Et c'est important de se détacher du résultat.
Le résultat qu'on veut, notre objectif, ou bien il faut juste l'oublier.
Se détacher du résultat. C'est-à-dire que toi, tu
Non,
mets
mais
tout en place
OK.
pour y arriver.
OK.
Parfois, tu as un objectif en tête. Tu veux aller de A à B. Et en fait, en cours de route, tu t'adaptes sur autre chose et en fait, tu atteins C. Et c'est
Un
OK.
autre objectif qui est aussi bien ou bien meilleur que l'autre, ou bien un petit peu
Voilà.
moins, mais c'est un objectif que tu as atteint, quelque chose que tu as
C'est ça.
créé. Donc, il faut juste mettre en place, il faut avoir un objectif, mettre en place tous les outils pour y arriver, réfléchir différemment, qu'on peut y arriver, mais on peut y arriver à n'importe quel résultat et n'importe quel résultat sera positif anyway.
C'est ça. Et
Ok.
c'est un peu le concept de Inch'Allah.
Oh yeah, c'est vrai, c'est vrai.
C'est parce que au Maroc, on dit tout le temps, bah, je vais
Inch'Allah.
faire ci, je vais faire ça, Inch'Allah.
If,
Il y a ce truc de, si ça marche pas, Dieu n'a pas voulu.
Yeah, mais ça peut bloquer aussi des fois.
Bah, après, si tu mets pas en place ce qu'il faut pour y arriver, bah, mais par contre, si tu fais tout pour y arriver et que tu n'y arrives pas, faut pas s'acharner, faut pas le vivre mal parce que toi, tu as tout fait pour y arriver. Et si tu n'y arrives pas, c'est OK, on va faire autrement, on va aller vers autre chose. Je te dis ça parce que il y a par exemple des grands sportifs qui leur objectif, c'est d'être champion et en fait, ils ont un accident, ils peuvent plus pratiquer ce sport. Comment tu fais? Si ton objectif de vie, c'était être
D'aller
champion de ce sport-là, tu vois.
aux Jeux Olympiques pour courir, et tu n'arrives plus à courir maintenant.
Voilà. Bah, il y a plein d'histoires comme ça où tu vois que la personne, elle va se raccrocher sur autre chose. Peut-être qu'elle va partir sur du dessin, peut-être qu'elle va partir sur du chant,
Coaching,
peut-être.
Devenir
Mais
un coach.
l'important, c'est de continuer dans le flot de la vie et accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Tout ce que moi je peux changer, je mets tout ce qu'il faut pour y arriver. Et ce que je peux pas changer, ben, on
Donc,
accepte.
le mot-clé, c'est accepter.
Ben, pour moi, c'est important que tu aies une espèce de spiritualité, pas forcément une religion, mais
Mais.
de croire en quelque chose d'un peu plus fort que toi, pour réussir à lâcher prise quand, ben, il n'y a pas moyen, en fait.
Mais toujours être
Tu vois?
positif et rester comme, OK, c'est un nouveau challenge, comment je peux le faire? Comment maintenant je dois reset, je dois remettre encore tous mes objectifs que j'ai eus. Maintenant, j'ai une situation, comment je peux m'adapter à ça? Et comment je peux progresser?
Tu as dit quelque chose d'important, tu as dit je dois reset.
Reset,
Moi, je dis toujours c'est important de se dire est-ce que je dois ou est-ce que j'ai vraiment envie, c'est important pour moi, c'est vraiment ça qui est important pour moi ou est-ce que je dois? Parce que attention, les je dois, est-ce que c'est moi qui veux ou est-ce que c'est la société, est-ce que c'est le regard des autres, est-ce que c'est mes parents? Et c'est important de faire le distinguo parce que des fois, tu es à fond sur un projet, sur un challenge pour atteindre un objectif. C'est même pas ton objectif à toi.
C'est vrai, c'est l'objectif de tes parents, de quelque chose, mais tu ne veux pas faire ça. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Moi, je veux danser. Yeah. Moi, je veux pas être je veux pas être un médecin. Je veux chanter.
Exactement.
Yeah.
Donc c'est important une fois que tu deviens adulte, déjà de te détacher un peu de tes parents, parce que tes parents, ils ont fait leur mieux, mais tu es une personne à part entière. C'est pas évident à faire de faire ce travail de OK, mes parents, ils ont fait des choses bien, ils ont fait des choses pas bien. Surtout dans notre culture, il y a ce truc de ah non, touche pas les parents, faut pas dire de mal. Mais en fait, c'est pas du mal, c'est normal. On est des êtres humains, on fait du bien et du mal.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
C'est la base. Donc, tu te détaches de ça et tu te dis, OK, ben maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est pour ça que beaucoup de gens font la crise de la quarantaine. Parce que à la quarantaine, c'est un peu le milieu de vie. Tu te dis, ah, OK, il me reste peut-être 40 ans devant moi. Maintenant, je vais commencer à faire vraiment ce que je veux moi et pas ce que la société veut, ce que mes parents veulent.
J'aimerais bien parler de la crise de quarantaine un jour, quand on aura 40 ans. Très bientôt. Très très bientôt, on va avoir 40 ans. J'ai déjà 36 ans. 4 ans, c'est rien du tout. Mais je suis proche de mes 37 que je l'étais de mes 36. Donc vraiment, 3 ans et demi maintenant qui restent. On a toujours beaucoup de questions, mais j'aimerais bien qu'on touche un petit peu à ça dans un autre épisode par rapport à la crise de quarantaine. Et quelles sont quelle sorte de questions, quelles sortes de trucs qu'on se remet en cause ou bien on commence à discuter par rapport à où est-ce qu'on en est maintenant et tout. Mais vraiment, c'est des obstacles qu'on peut encore se mettre dans la tête, qui peuvent nous bloquer ou on peut manquer des opportunités. Est-ce que tu as déjà senti ça auparavant, le fait de la negativity bias? Et comment tu as réagi à ça? Et s'il y avait une situation que tu veux échanger avec nous, ça serait très bien.
Bah, avant d'avoir mon fils, j'avais très peur de la parentalité. Je me demandais est-ce que je veux vraiment être maman. Ça m'a pris des années avant de me décider parce que j'avais très peur de ne pas réussir, de que mon couple ne tienne pas. Donc j'avais beaucoup de. Pour moi, dans ma tête, je me disais non, mais c'est des problèmes. Un enfant, c'est des problèmes.
C'est un problème. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai eu des problèmes.
Et peut-être que j'ai eu l'exemple de mes parents qui ont eu deux enfants avec 10 ans d'écart parce qu'ils ont trouvé que waouh, être parent c'est un truc de fou, etc. Certainement parce que c'est des personnes qui sont un peu dans la perfection et dès que tu es dans la perfection, tu prends un peu cher en tant que parent.
Ils ont fait du bon boulot. Moi, je vais te dire ça. Ils ont fait des très très bons boulots avec vous. Toi, je pense que tu as une sœur.
Peut-être un peu trop, parfois.
Ils ont fait du très très bon boulot.
Non, mais du coup, je pense que moi, ma croyance à ce moment-là, c'était déjà un manque de confiance, parce que je me disais, je suis pas capable, je suis pas capable d'atteindre cet objectif et d'aller vers ce challenge.
Mais tu avais peur de quoi?
J'avais peur de trouver ça trop dur de m'occuper d'un autre être que moi.
De l'échec?
Ouais, j'avais peur de pas être la maman que j'ai envie d'être.
Ne
J'avais
pas
envie
être
d'être
à
une
la
maman
hauteur.
assez bienveillante, qui est dans la pédagogie, dans l'accompagnement. En gros, je voulais être une maman parfaite. Et c'est pour ça que je bloquais, parce que je me disais, mais en fait, c'est impossible d'être parfait. Et du coup, bah, je fais quoi?
Le concept de la perfection, des fois on se retrouve en train de comparer, de nous comparer aux autres. Et ça vraiment, ça, des fois ça aide quand on prend le bon côté des choses, mais des fois ça vraiment, ça casse le mental, ça nous conduit vers soit une dépression, soit on se dit qu'on n'est pas vraiment capable de faire quoi que ce soit. C'est quand on commence à comparer et on commence à comparer d'une manière qui n'est pas vraiment healthy. Donc, comment tu
Oui,
as
tout
pu...
à fait. Ouais, quand tu dis comparer de façon positive, tu veux dire s'inspirer peut-être des
S'inspirer,
autres.
être un...
S'inspirer des autres, c'est génial de s'inspirer des autres et c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans la parentalité parce que je voyais autour de moi des personnes qui ressemblaient aux parents que je voulais à peu près être et je me disais, OK, c'est possible. On peut être parent et en même temps continuer à faire ses sorties. On peut être un parent et continuer à avoir une vie de couple. Donc, tu vois, toutes ces croyances-là, j'ai commencé à les dissiper petit à petit grâce à l'expérience des autres, finalement, puisque moi, j'avais pas encore l'expérience. Et une fois que je me suis lancée dans la parentalité, bon, j'ai trouvé ça quand même super dur au début, mais le travail que j'ai fait avant pour modifier les croyances m'a beaucoup aidée, puisque bah, c'est comme un marathon. En fait, dans tout ce que tu fais qui compte, il va y avoir de la difficulté. Il va y avoir des choses dures à surmonter. Et c'est ça, je pense, qui a accepté dans la vie, c'est OK, il faut voir est-ce que la difficulté, elle est OK par rapport à l'importance que j'ai pour ce projet. Donc, si tu te lances dans la parentalité alors que c'est pas quelque chose que tu veux, que tu vois pas trop l'intérêt, bah forcément, ça risque d'être dur. Mais si tu as trop envie de transmettre et que tu as trop envie d'avoir une
Une
famille,
famille,
bah,
ouais.
la difficulté, elle est plus gérable.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut avoir l'envie, hein? On revient vers...
C'est ça, l'envie.
Il faut
Bah
avoir
ouais.
l'envie.
Comme pour le marathon, moi, clairement, j'ai pas du tout l'envie de courir un marathon.
Same here. Moi, je
Mais
veux
quand je
même
vois
pas
les gens.
courir, period. Point final.
C'est ça. Et quand je vois les gens, bah, ils sont hyper motivés, ils courent tous les jours ou un jour sur deux
Moi, j'ai
pour
envie juste
pouvoir
de leur
justement
demander
atteindre cet
pourquoi.
objectif.
Pourquoi?
Ben, en fait,
C'est un objectif,
je pense que c'est vraiment t'imagines, pour l'estime de soi à la fin quand
ouais.
il arrive.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc,
Te
il faut
dis,
se.
j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à être disciplinée, j'ai réussi à commencer à courir 5 km, au final j'ai couru 40. Je pense que ça sert à ça aussi le sport, c'est de gagner en confiance en toi.
Ouais.
Après, moi j'aime pas courir, donc je vais pas courir, mais les gens qui courent, ils adorent ça, hein. C'est quelque chose qui leur fait du bien, c'est.
Et
Donc,
pratiquer n'importe
ouais.
quoi, que ce soit un sport ou n'importe quoi. Même pour moi, c'est un hobby de faire le podcast. Juste le faire et y réfléchir every day et puis m'entraîner, regarder des trucs, lire des trucs. Ça me fait sortir un petit peu de ma vie au quotidien, le travail, les factures, les trucs là que je dois vraiment faire. Et puis, ça me met dans une zone où moi, je trouve satisfaction. Il y
Tout
a
à
une,
fait.
il y a, je m'auto-satisfais avec ce que je fais. Et j'aime bien le faire et ça ne va pas du tout m'arrêter. Et je voudrais juste rappeler que le premier épisode qu'on a eu, on a eu plus de 3 400 personnes qui ont écouté
Écoute.
qui ont écouté l'épisode. Pour quelques podcasters, 3 400, ce n'est pas vraiment beaucoup. Pour moi et pour toi, c'est extraordinaire parce qu'on vient de commencer. Moi, je viens de commencer en juin. Donc, la satisfaction, elle est encore plus grande quand je vois des chiffres et des nombres. Que vraiment, oh my God, like, j'ai eu 3 400 personnes qui ont écouté ça.
C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait trop penser à un podcast que j'avais écouté avec Laurent Gounelle, encore un nom très français.
Laurent Goumel.
C'est un auteur qui écrit des livres, des romans, mais il utilise le développement personnel donc dans son histoire. Et il disait, moi je sais que mes livres ils sont de qualité, mais la qualité ne veut pas dire succès. Parce que sinon McDonald's, ça serait du 2 étoiles.
Ouais, c'est vrai.
Et waouh, ça m'a vraiment,
Ouais.
marquée quand il a dit ça, parce que je me suis dit, waouh, oh, mais c'est trop vrai, en fait, ce qu'il a dit.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'il dit, il faut jamais mélanger ta valeur avec ton succès.
Wow.
Parce que toi, tu as de la valeur, tu es un être unique. Et c'est pas parce que bah, tu es au chômage que tu n'as plus de valeur.
Ouais.
C'est pas parce que tu as fait un podcast qui n'a pas fonctionné que tu n'as pas de
Que tu ne
valeur.
vois rien du tout,
C'est pas parce que tu es en rupture que tu n'as pas de valeur. Et waouh, quand tu comprends ça, tu fais waouh, ok. Ça, c'est important de. Même dans l'éducation, tu vois, il disait que c'est important de ne pas dire à son enfant tout le temps ah, t'es beau, et s'arrêter là. Parce qu'un jour, on va être moche. C'est vrai.
ouais.
Plus tu vieillis, et moins t'es beau physiquement.
I don't
Bah, tu prends une jeune fille, tu
Yeah.
prends une personne à ses 30 ans avec la police fine,
Ouais, c'est vrai, c'est
les
vrai.
cheveux machin, etc. La même personne à 70 ans, c'est une autre beauté, mais ça sera plus la fraîcheur
De ses 30 ans.
quand tu étais jeune.
Ouais.
Voilà. Et il disait, bah, pareil, c'est important de dire à ton enfant, t'es beau, mais ça ne détermine pas ta valeur.
Ouais,
Un
c'est
jour,
vrai.
peut-être, tu seras moche. Parce qu'un jour, t'auras peut-être, tu peux avoir un accident. Si t'as un accident, que t'as une grosse cicatrice, ça y est, t'es moche, t'as plus de valeur.
Ouais, pour toute ta vie, non, ça c'est juste, il faut le prendre du bon côté.
Ouais.
Ouais.
Et je trouve que c'est important de se rappeler. Et c'est ça qui est important même dans le comportement, quand tu te comportes avec les gens, quel que soit leur poste, leur boulot, avec de la valeur, parce que bah, celui qui passe la serpillière ou le PDG, ils ont la même valeur.
La même valeur, ouais.
Ben, moi, j'ai la même valeur que ces deux-là. Même si tu es
Exactement.
PDG,
Je
tu
m'en fous.
viens, je vais te parler de la même manière.
Ouais.
Je vais pas être comme ça.
Yeah,
Donc, c'est
yeah.
important.
Yeah, yeah. Je faisais ça. Et le fait d'être venu ici aux États-Unis, ça m'a vraiment appris ça. Appris le fait que on est tous pareils. Hein, si tu veux, si, je dois pas dire monsieur. Je dois pas dire monsieur. Au Maroc, on a eu ça. Moi, je travaillais dans des sociétés où je dois dire monsieur Camille, monsieur this, monsieur that. Non, mais
Mais
pourquoi
est-ce
je vais
que
dire
eux, ils te
monsieur?
disaient Monsieur
Pas
Naufal?
du tout. Pas du tout.
Voilà,
Et c'est là où
tu
ça
vois.
commence à monsieur this. Et je suis arrivé ici, et les gens qui parlent du CEO comme Dan Bain. Wow. Hey Dan, how are you? C'est normal, on est tous. Normal, on est tous pareils.
Pareil.
La bureaucratie, ça ne sert à rien du tout. Maintenant, il y a personne qui est au-dessus de toi. Il y a des gens qui ont plus de responsabilités que toi.
Exactement.
Mais il n'y a personne
Tout
qui est
à fait.
au-dessus de toi. Donc, s'il y a quelqu'un qui a pu faire quelque chose, à un certain moment, je peux le faire.
Bah, tu vois, tu viens de dire un truc important. Personne n'est au-dessus de toi. Bah, pour moi, ça commence dans l'éducation. Si toi, tu as une posture avec ton enfant de j'ai certaines connaissances que tu n'as pas, j'ai des responsabilités que tu n'as pas,
Voilà.
mais je ne suis pas au-dessus de toi.
On est pareil.
C'est pas la même posture que je suis au-dessus de toi, tu fermes ta bouche et tu fais ce que je te demande.
Et j'ai déjà réfléchi pour toi, tu vas faire ça.
Voilà,
Tu n'as pas besoin de réfléchir
exactement.
parce que je l'ai déjà fait.
Pour moi, c'est pas évident, mais ça reste du respect de l'autre, même si c'est un petit enfant, c'est un être humain.
C'est maintenant qu'on en
Et
parle, c'est plutôt un manque de respect vers l'enfant.
bah oui,
C'est,
quand
ce n'est pas vraiment
déjà
les traiter comme des
tu
enfants.
permets de dire des choses à ton enfant
Ouais.
que tu te permettrais jamais de dire à un adulte.
Ouais, exactement. Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Et
Quand
ça.
tu t'énerves sur un enfant et que tu commences à lui gueuler dessus, à lui parler mal, mais
Pourquoi tu vas faire
non,
ça?
tu peux pas faire ça avec un adulte.
Et comment tu penses que l'enfant vraiment va réagir à ça? Et comment est-ce qu'ils vont l'oublier ou pas? Parce que c'est vraiment c'est là où il y a des situations que les enfants vraiment gardent.
Bah oui, ça dépend parce que ça dépend des enfants. Il y a des enfants, mais généralement, la répétition fait que si de De temps en temps, tu fais des ratés comme ça. Mais si c'est ta méthode d'éducation, que c'est tout le temps comme ça, ça laissera forcément
Des séquelles.
des séquelles. Après, c'est comment tu te rattrapes derrière,
Ouais,
parce que tout est
exactement.
réparable.
Ouais.
Si tu te rattrapes derrière, bah, tu apprends aussi à l'enfant que bah, on est des êtres humains. Parfois, on fait n'importe quoi. Parfois, on dit n'importe quoi.
Et on
mais
n'est pas
aussi
parfait.
on demande pardon,
Ouais, exactement.
on répare nos erreurs. Pareil, je ne sais pas comment c'était chez toi, mais les enfants, généralement, quand ils font tomber un verre, ils cassent un verre ou qu'ils font tomber quelque chose sans faire exprès, ils se font mais défoncer.
Non, non, pas chez moi,
T'imagines?
non. Mes parents, ils n'étaient pas vraiment ils étaient pas vraiment.
C'est cool.
Ils étaient cool par rapport à ça. Un verre, c'est un verre. Et puis, non, ils étaient beaucoup plus par rapport à l'éducation ou bien par rapport à. Parce que j'ai fait beaucoup de mal, j'ai fait beaucoup de bêtises en grandissant. Donc, quand je faisais quelque chose, je le sentais très rapidement. Et surtout mon père, surtout du côté de mon père. Mais c'est des trucs, mais c'est ça ce que je dis, parce que j'ai du mal à me rappeler que des choses quand j'étais jeune qui m'ont fait des situations où j'étais vraiment très heureux. Et je me rappelle beaucoup plus, très très nettement, des situations où je me suis fait défoncer, par exemple.
Ouais, c'est normal. Bah, c'est
Donc.
normal. Tu parlais de. T'as fait beaucoup de bêtises, etc. Mais quand on est, tu sais, dans l'adolescence.
On essaie des trucs. Ouais.
Ouais. En fait, on a besoin de encore plus de sens et d'intensité dans la vie. Donc, quand tu es jeune comme ça, tu cherches du sens à la vie et de l'intensité. Donc, quand tu ne le trouves pas dans ton quotidien, tu commences à faire n'importe quoi.
Peut-être que c'est ce que j'ai fait, peut-être. Mais sincèrement, je pense que à n'importe quel âge, que quand tu es enfant ou bien adolescent, il faut avoir un environnement qui, si ça commence par l'oreille, ça commence par l'écoute, et ça commence par une conversation avec les enfants. Et je pense que vraiment, la manière si on choisit une dictature à la maison, au lieu d'une démocratie où on peut discuter, la vraie démocratie, on peut discuter et puis parler de ci, parler de ça, sans tabou. Et la maison, c'est un endroit où c'est vraiment. C'est l'endroit là qui a
Safe.
le. The safest place you can have. Le plus de sécurité que tu as. Et tu peux parler de tout ce que tu veux sans filtre et tout. Vraiment, tu n'auras jamais de problème à parler avec les autres. Tu ne vas jamais te sentir
Après,
intimidé
c'est
par
pas
quelqu'un.
évident à faire.
C'est très
Il faut que le
difficile.
parent, il arrive aussi à accueillir ce que son enfant va lui dire.
Mais ça commence
Parce
par
que
l'intellectuel aussi des parents.
ouais,
Est-ce qu'ils
ça
sont capables
dépend
de parler de tout?
l'intellectuel et l'émotionnel.
Et ouais, exactement. C'est un entraînement au quotidien aussi.
C'est ça. Parce que quand ton enfant, en fait, déjà quand tu deviens parent, t'as, en tout cas, la personne qui s'occupe le plus de son enfant dès le départ, elle a un truc qui se passe dans le cerveau où tu es encore plus alerte qu'avant. Tu vois, la peur, elle est là, tu deviens un peu comme un animal, tu vois, où c'est un peu instinctif, où tu as besoin de protéger ton enfant, etc. Généralement, les mamans, elles ont ça au début parce qu'elles s'occupent beaucoup de leur enfant. Et le papa, il peut l'acquérir au bout d'un moment, ou il peut, s'il s'occupe pas trop de ses enfants, ne pas trop avoir ça. C'est pour ça que souvent, les mamans, elles sont plus inquiètes que les papas quand elles s'occupent beaucoup de leurs enfants. Mais il y a eu des couples homosexuels qui ont eu exactement la même chose alors qu'ils n'ont même pas eu cet enfant par eux-mêmes parce qu'ils se sont beaucoup occupés de leurs enfants, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Et le fait d'avoir ce truc-là, déjà, quand ton enfant il vient te raconter quelque chose, mais tu ressens des émotions hyper vives. Imagine ton enfant, il vient, il te dit, ouais, j'ai mon pote machin. Il a essayé telle drogue. Beaucoup de parents, tout de suite, ils vont ressentir une peur énorme, ils vont s'énerver, mais il ne faut plus lui parler à
Red flag,
ce mec.
yeah.
Tu vois? Tout de suite, ils vont être envahis par leur peur, ils vont avoir la mauvaise réaction qui va faire que juste leur enfant, il ne va plus leur raconter.
Right. Ouais, et il faut arrêter de
Et
parler à cette personne.
voilà.
Prendre
Bah,
la première
généralement, le
réaction,
parent, il va
généralement.
essayer de couper le danger. Mais
Exactement.
couper le danger,
L'arrêter.
tu sais pas, toi, ton enfant, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut. T'inquiète que s'il veut pas arrêter avec cet ami-là, il va pas arrêter,
Et
hein.
le plus funny, c'est que l'enfant, il va être tout seul. Les parents, ils peuvent pas être avec l'enfant tout le temps, 24 sur 7.
Exactement.
Donc ils vont
D'où
faire ce qu'ils
l'importance
veulent. Maintenant, il faut
du
leur...
dialogue.
Ouais, exactement, il faut leur parler.
Ouais, et c'est pas évident de gérer ses propres émotions
Pas du tout.
et de se dire, oula, là, je ressens de la peur parce qu'il me raconte ça. Comment je fais pour gérer cette peur avec moi-même? Qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? C'est vraiment un accompagnement de ouf quand tu veux vraiment être dans l'écoute.
Ouais. Yasmine, si les gens veulent entrer s'ils veulent te contacter, ils veulent entrer en contact, c'est ce que je voulais dire, avec toi, comment ils peuvent te contacter?
Sur Instagram, Yasmine-ChoisisTaLife.
Ok.
Sur LinkedIn, Yasmine Pinard Abdeljalil.
Ok. Et
Et si j'échangerai avec eux avec plaisir.
Et on va les laisser dans la description de cet épisode, comme ça les gens. Et parce que vraiment, moi, j'apprends beaucoup de toi. Et le truc, ce que j'aime en te parlant, c'est que je ne me sens pas du tout. Tu ne donnes pas le sens que. Donc, tu as tort de faire ça. Il y a toujours de yes and. Yes and. Oui et. On peut même discuter de ça, oui, bien sûr, et on peut faire ça. Mais il n'y a pas le sens de non, moi je sais tout, toi tu écoutes. Et ça vraiment, ça m'aide aussi. À chaque fois que je te parle, c'est comme si c'est une session où je m'adapte à quelque chose d'autre. Donc je prends avantage de ça. Je prends beaucoup d'avantages, de bénéfices de ça. Je suis désolé pour mon français qui devient de plus en plus nul, mais vraiment en te parlant, je pense que ça va s'améliorer de plus en plus. Au fil de l'épisode, je pense que je me suis mis beaucoup plus à l'aise. Et là, regarde, moi, je parle couramment encore. C'est juste un refresh.
Fluent.
Yeah, fluent, I'm fluent. On va bien sûr discuter beaucoup plus et d'autres sujets, mais j'aimerais bien que les gens puissent te contacter. On va mettre ton email, ton LinkedIn, ton Instagram, comme ça les gens peuvent te suivre. Et puis. Te connaître et puis bien sûr si vous souhaitez avoir l'aide de Yasmine vous êtes toujours disponible Yasmine n'est-ce pas?
Tout à fait.
Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une conclusion, quelque chose avec laquelle tu veux conclure?
J'aimerais conclure avec l'idée de se dire qu'on fait toujours de notre mieux. Et que notre mieux d'aujourd'hui, c'est pas notre mieux d'avant-hier, c'est pas notre mieux de demain. Pour gagner un peu plus de bienveillance envers nous-mêmes et de se dire OK, chaque jour est une nouvelle opportunité. Et parfois, bah, c'est moins bien, mais c'est pas grave, c'est OK.
Et il faut continuer à persévérer et à s'auto-développer, bien sûr, écouter et puis essayer quelque chose de nouveau. Et il faut jamais se remettre en question. Faut
Jamais
jamais.
arrêter de se remettre en question.
Faut jamais arrêter de se remettre en question. Donc, on doit se remettre en question. Non, mais remettre en question les choses, les obstacles qu'on a devant nous et se dire, je vais jamais le faire. Essaye. Juste essaye. Donne-toi une chance de le faire.
Accepte que l'échec,
Ça fait
c'est un
partie de.
apprentissage.
Et ça fait partie de challenge, ça fait partie de si on échoue à quelque chose, ça faisait partie du truc. Il y a soit on va succéder, soit on va échouer. C'est
Sinon, on n'aurait jamais marché, tu vois.
exactement. Et les gens les plus successful, qui ont eu plus de succès dans la vie, ils ont connu des échecs. Et
Tout à
c'est
fait.
grâce à ces échecs-là qu'ils ont persévéré. Qui sont arrivés là où ils sont maintenant. Toi aussi, Yasmine. Merci pour tout. Ce fut un plaisir.
Merci beaucoup. À très bientôt.
À très très bientôt. Have a wonderful day, everyone. This was the Sale Talk. This was Yasmine and Nofel, your host. À très bientôt.